rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. L'arrivée d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne et le renouvellement des postes clés des institutions de l'Union suffiront-ils pour donner un nouvel élan à l'Europe? Entre l'adoption d'un budget ambitieux pour financer, entre autres, la transition énergétique et le Green Deal, le fameux pacte vert, comme on dit en français, la définition d'une politique migratoire commune et la deuxième phase du Brexit sur la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, négociations qui vont commencer dès le 1er février, incontestablement, le défi est immense pour la nouvelle présidente de la Commission. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Vous êtes consultant en affaires européennes et président du mouvement européen France. Le mouvement européen, c'est toujours le moment de rappeler qu'est-ce que c'est que ce mouvement?
C'est un mouvement qui d'ailleurs cette année va fêter ses 70 ans d'activité, donc légèrement antérieur à la construction européenne, à son lancement, qui réunit ceux qui partout en France, métropole, outre-mer, veulent faire de la pédagogie sur la construction européenne, promouvoir le débat, parce qu'il y a matière à débat, on va le faire dans cette émission, et puis aussi formuler des propositions pour qu'elle avance, cette construction européenne, puisqu'on croit qu'elle est utile.
Dominique Régnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. La Fondapol, en deux mots.
C'est un think tank qui veut contribuer nécessairement avec d'autres, on ne peut pas le faire seul, à un débat public documenté et aussi aider à la décision en faisant des recommandations. Nous sommes une fondation qui se présente comme étant libérale, progressiste et européenne. Et d'ailleurs, à ce titre, la fondation est membre du mouvement européen.
Bonjour Hans Stark.
Bonjour.
Guten Tag. Vous êtes le secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes, en abrégé ça se dit CERFA, qui dépend de l'IFRI. Vous êtes très centré sur la relation franco-allemande.
Oui, et on explique un peu l'Allemagne en France et la France en Allemagne aussi. On publie pas mal de choses en langue allemande pour expliquer pourquoi il y a des grèves, pourquoi il n'y a plus de grèves, pourquoi il y aura toujours des grèves, etc.
C'est vrai que la relation franco-allemande, ce n'est pas forcément un long fleuve tranquille.
C'est quelque chose en zigzag, en effet, en dents de scie. Il y a des moments de haut et il y a des bas. Et on peut aujourd'hui parler pourquoi il y a plutôt peut-être en ce moment un bas qu'un haut.
Hallo, ich bin Ursula von der Leyen und ich werde als Präsidentin.
Bonjour, je suis Ursula von der Leyen et je suis la présidente de la Commission européenne pour les 5 prochaines années. Vous voulez une économie forte, créatrice d'emplois et de richesses durables. Vous voulez que l'Europe devienne un continent neutre en carbone et ait du succès à l'ère du numérique. Vous attendez une protection pour les faibles et une sécurité pour tous. Vous voulez des investissements dans l'éducation, dans la recherche et l'innovation créatrice d'opportunités pour l'avenir. Pour nous, Européens, l'état de droit et la démocratie passent avant tout. Nous nous sentons tous proches de ces objectifs. Mettons-nous au travail.
Petite vidéo promotionnelle d'Ursula von der Leyen qu'on trouve sur son site Twitter. Alors un petit mot pour commencer sur le nouveau casting européen. Alors on peut rappeler ce nouveau casting. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission. Charles Michel, président du Conseil européen, c'est-à-dire qu'il va rencontrer en permanence les chefs d'État et de gouvernement. Josep Borrell à la tête de la diplomatie européenne. David Sassoli, président du Parlement européen. Et enfin Christine Lagarde en patronne de la BCE. Un renouvellement complet des grandes têtes européennes. Hans Stark, que pensez-vous de ce casting? C'est un bon casting?
Écoutez, il faut leur donner du temps au temps pour voir si c'est vraiment un bon casting. Je pense que sur la Banque Centrale Européenne, on sait avec qui on va travailler. Peut-être que l'inconnu, c'est un peu Ursula von der Leyen.
Même pour vous
Même tout en la connaissant. L'inconnu en tant que président de la Commission. Elle quitte la scène politique berlinoise avec quelques difficultés. Et les Allemands étaient d'ailleurs un peu surpris.
Il faut rappeler qu'elle était ministre de la Défense.
De la Défense. Elle a laissé quelques problèmes derrière elle, des contrats avec des experts, des conseillers très très lucratifs sur lesquels on s'interroge beaucoup en Allemagne et des SMS sur son téléphone portable qui par enchantement ont disparu juste au moment où elle a pris ses fonctions plus ou moins. Je pense que cette nomination-là, qui est la première pour un responsable allemand depuis le tout premier président de la Commission qui était Walter Hallstein dans les années de 58 à 66, donc pour la première fois qu'un Allemand ou une Allemande occupe ce poste, on aurait pu penser que pour la République fédérale, c'est vraiment le geste pour qu'enfin Berlin se retourne de nouveau beaucoup plus massivement vers Bruxelles et fassent la vraie politique européenne maintenant qu'ils ont la présidence. Et je pense que ce ne sera peut-être pas le cas, en tout cas pas avec Mme von der Leyen, qui visiblement n'a pas suscité un enthousiasme débordant outre-Rhin.
Dominique Régnier, est-ce qu'on a les bonnes personnes aux bonnes places ?
Bon, c'est difficile à dire parce que c'est
un peu tôt, évidemment.
C'est le démarrage. Oui. Bon, il y a bien sûr des raisons de préjuger une déception. C'est peut-être un pli contre lequel, d'ailleurs, il faut se garder pour que les choses aient une chance de devenir possibles. Mais je note quand même que ce nouvel exécutif vient après des élections européennes que moi j'ai trouvé particulièrement réussies.
Déjà au niveau de la participation.
Participation en hausse quand même.
Plus 8% à peu près dans les 28 pays européens puisque les Britanniques
absolument
ont voté.
Et ce qui nous ramène à des niveaux, moi j'ai trouvé ça très important à ce moment-là, qui sont supérieurs à la période qui a précédé à la fois l'élargissement et l'euro. Et donc, vous savez, c'était un peu l'Europe dont on pensait qu'elle était là, responsable d'un désamour, d'un divorce au fond, par ces deux raisons-là. Et puis finalement, là, on a retrouvé ce niveau de participation.
Oui, ça veut dire que quand même les Européens attendent quelque chose de l'Europe.
Oui, ça, je le crois beaucoup, je crois beaucoup. Il y a une demande, une attente qui est forte. Les indicateurs sont là-dessus très clairs, on pourra peut-être en reparler. Et moi, je trouve aussi, alors c'est peut-être, ça sera peut-être jugé, je ne sais pas moi, une remarque superficielle, mais je trouve que une présidente à la tête de la BCE, une présidente à la tête de la Commission européenne, quand on a vu ces deux visages de femmes à la une des journaux, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, c'est extraordinairement puissant et que ça c'est une façon aussi de dire ce qu'est l'Union européenne. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort. J'espère que ce sera une source d'énergie, d'élan et même de fierté pour les Européens.
Ce qui veut dire, je pense qu'on en dira un mot au cours de l'émission, peut-être dans la deuxième partie, quand même une différence entre le monde de Trump et le monde de Xi Jinping.
Oui, entre d'ailleurs malheureusement une partie croissante du monde et l'Europe. Voilà, il faut se garder d'une forme d'orgueil, je dirais, régional, mais quand même, il y a là de quoi vraiment être très fier, et de la construction, et des personnes qui la représentent.
Yves Bertoncini, la précédente commission, on disait que c'était la commission de la dernière chance. Est-ce que cette commission et l'ensemble des gens qui animent et qui vont incarner l'Europe à ces différentes positions que j'ai citées, est-ce que c'est vraiment le casting d'un nouvel espoir ?
S'il s'agit de casting, je crois que Dominique Régnier a raison d'insister sur ce signal envoyé au monde entier, deux femmes à des positions de force. En effet, on peut se satisfaire, et d'ailleurs ça va au-delà de ces deux femmes, puisque je crois qu'il y a évidemment ailleurs, Josep Borrell était remarquable, Frans Timmermans, il y a aussi Madame Vestager, et ainsi de suite. Donc ça, oui, le casting est plutôt bon, ce sont des gens de grande qualité. Ensuite, faut-il encore qu'ils jouent le rôle qu'ils vont devoir endosser ? C'est pas facile de succéder à Mario Draghi à la BCE, parce qu'il a été remarquable, Mario Draghi. C'est pas facile de succéder à Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne, parce que c'était un redoutable tacticien, manœuvrier. Il s'est trompé juste en disant que c'était la commission de la dernière chance. Et de ce point de vue-là, Madame von der Leyen a été mieux inspirée en disant qu'il fallait une commission géopolitique. C'est-à-dire, on y reviendra, une Europe qui regarde le monde et qui s'unit face aux défis qu'on doit affronter ensemble. La dernière chose, quand même, au-delà des personnes que je voudrais souligner, c'est que Madame von der Leyen n'aura pas une tâche facile, si je compare avec son prédécesseur. Pourquoi ? Parce que d'abord, du point de vue partisan, la situation est beaucoup plus pluraliste, on peut dire, mais aussi fragmentée au Parlement européen et ailleurs en Europe. C'est vrai que du temps de Juncker, il y avait un duopole PPE-SED, sociodémocrate,
conservateur et sociodémocrate.
C'était plus facile à gérer. Et d'ailleurs, on l'a déjà vu dans la mise en place de la commission von der Leyen. C'est difficile du point de vue partisan. C'est difficile du point de vue institutionnel
aussi.
C'était
plus facile à gérer, mais en même temps, c'était quelque part démoralisant parce que c'était aussi une forme d'immobilisme.
Sans doute, mais je ne crois pas que la Commission et l'Union européenne aient été immobiles dans les dernières années. Il faut aussi être assez mesuré. Il y a des choses qui ont été faites, notamment suite à des crises, d'ailleurs, qui ont poussé à l'action, même si ça a tardé. Mais en tout cas, ce pluralisme partisan nouveau réclame d'authentiques capacités manœuvrières que Jean-Claude Juncker avait. On verra pour Madame von der Leyen. Il y a aussi des tensions interinstitutionnelles, parce que ce qui s'est joué au moment de la mise en place de la Commission von der Leyen, c'est quand même révélateur d'une forme de malaise, des rapports de force entre le Conseil européen d'un côté, d'ailleurs y compris pour le casting, Madame von der Leyen, elle est sortie du chapeau, de nulle part, pas forcément soutenue par son pays. Rappelons quand même que Madame Merkel n'a pas voté pour Ursula von der Leyen au moment de sa nomination, pour des raisons liées à la coalition.
Parce que son partenaire social-démocrate ne voulait pas de Madame von der Leyen.
Absolument, mais ça signale le problème partisan, problème interinstitutionnel, et puis je signale juste en dernier lieu, bien sûr, du point de vue diplomatique, parce que l'Union européenne n'est pas très unie. Bien sûr, les pays au-delà du Royaume-Uni ne vont pas la quitter, hein, ils restent, mais enfin, il y a quand même beaucoup de fractures qui ne sont pas complètement refermées. On reviendra sur les migrations, notamment, mais même sur l'environnement, hein, sa grande priorité. Là, elle a vraiment pris le taureau par les cornes, elle a proposé un pacte vert européen. On verra que ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Et donc, j'espère qu'elle a toutes les qualités requises pour relever ces grands défis, parce que je dirais que le contexte politique global est plus stimulant, plus difficile que celui dont a bénéficié son prédécesseur.
Qui pourtant a dû gérer un certain nombre de crises qui n'étaient pas des moindres. Réconcilier l'économie avec la planète, c'est l'ambition d'Ursula von der Leyen. C'est la grande ambition de cette nouvelle commission, le Green Deal, le pacte vert en français, qui devrait conduire l'Union européenne à la neutralité carbone en 2050. Projet ambitieux qui va coûter cher. Le chiffre de 2000 milliards sur 10 ans a été avancé. Hans Stark, ça vous paraît réaliste? Ça vous paraît urgent d'aller dans cette direction? Ou c'est déjà trop tard?
Urgent sans doute, mais il ne faut pas non plus fixer des objectifs qu'on ne peut pas satisfaire par la suite. Donc il faut regarder aussi pays par pays quel est le bilan climatique de chaque pays membre de l'Union européenne pour savoir si l'UE dans son ensemble sera en mesure donc, de satisfaire à cette demande. L'Allemagne s'est interrogée sur son propre bilan climatique, presque sûre de ne pas pouvoir atteindre les objectifs. Mais finalement, cette année, en particulier avec d'ailleurs le changement climatique qui a provoqué plus de tempêtes, plus de vent. Il y a eu donc une charge supplémentaire au niveau des éoliennes par rapport au mix énergétique allemand. Et donc finalement, il rentre peu à peu dans les clous. Mais reste évidemment la question totalement ouverte du charbon. Du charbon des centrales de charbon en Allemagne qui vont être fermées, mais ce sera dans les années 2030.
Oui, on peut rappeler que l'Allemagne a abandonné du jour au lendemain le nucléaire, que ça a obligé à recourir davantage au charbon, qui met l'Allemagne dans une position difficile par rapport à cette transition climatique et à son bilan carbone.
Et rajoutons à cela aussi la résistance des citoyens européens par rapport aux éoliennes, par rapport donc aux énergies dites propres, par rapport aux installations qui seront nécessaires, par rapport aux mécanismes de moyens de transport. En Allemagne, l'électricité se produit entre guillemets dans le nord, mais elle est consommée dans le sud. Et donc il y a des tracés qui doivent être mis en place auxquels les citoyens ne sont pas favorables. Donc ça va être comme tout quand même provoquer pas mal de problèmes.
Dominique Régnier, ce Green Deal, ce pacte vert va concerner toutes les politiques européennes, la politique énergétique bien sûr, mais aussi les transports, la construction, le commerce, le pacte vert sur tous les fronts, c'est une politique globale, c'est plutôt quand même une très bonne idée ça.
Alors, moi je suis très embarrassé sur ce sujet-là, parce que c'est devenu une espèce de sujet quasi religieux, on est un peu en difficulté hein, là-dessus quand on veut avoir une discussion ouverte. La question du climat, du réchauffement, etc., ça ne fait aucun doute, c'est un problème majeur. Maintenant, la manière dont c'est présenté au niveau de l'Union européenne, moi je trouve ça totalement disproportionné. Parce que nous ne sommes pas seuls au monde, parce que le monde se carbone, parce que la Chine carbone le monde. La Chine agite régulièrement des éoliennes et du solaire, mais la Chine prend tout. Elle fait tout. Elle fait surtout beaucoup de charbon. Elle prend tout. Elle veut de l'énergie pour son immense croissance, pour son futur immédiat. Donc, le monde se carbone. Alors, ça n'est pas parce que le monde se carbone qu'il faut faire aussi mal que les autres, mais enfin, on ne pourra pas faire ça tout seul. Et je rappelle.
Est-ce qu'on peut être les leaders, peut-être?
Oui, mais pour faire quoi? Je rappelle qu'en Europe, il y a une force politique, à mon avis les Verts, qui ont survendu une influence qu'ils ont en Allemagne, et c'est à peu près tout. Aux élections européennes, ils ont fait 9% des suffrages exprimés au niveau de l'Union européenne.
Si vous dites qu'ils sont très très peu présents, pas du tout, dans les pays d'Europe centrale et orientale.
Ils ont fait 9%, voilà, au niveau de l'Europe. Quand on prend les Européens électeurs, ils ont fait 9%, 4,5% des inscrits. Bon, je trouve que, est-ce que nous avons besoin, nous les Européens, de compenser les excès que le monde est en train de faire? Y compris au motif qu'on l'a fait dans le passé, où est-ce que nous avons l'argument de dire il y a une très forte demande, c'est évident, faisons-le parce que les Européens attendent cela. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est mal dosé et que sur certains sujets qui sont absolument urgents, et dont moi je dis que le réchauffement politique est plus rapide que le réchauffement climatique, sur certains sujets absolument urgents, notamment la question des flux migratoires et des valeurs européennes à défendre, pas dans le monde, ici, hein, sur la question de du pacte politique des Européens et de leur manière de vivre entre eux, la civilité européenne, presque rien n'est dit. On était bien parti avec von der Leyen et puis à l'Assemblée se rétracter sous une espèce de pression un peu social-démocrate, un peu écolo. Or, c'est quelque chose qui aujourd'hui va être à nouveau livré en monopole aux populistes, comme on l'a fait dans chacun des pays qui sont en train d'échouer là-dessus. Voilà, je trouve que là, il y a un risque politique majeur. Et comme vous le savez, je termine là-dessus, mais l'Europe étant un magnifique espace démocratique où chacune des nations membres a ses propres élections et généralement pour des scrutins, des mandats très courts, 5 ans, 4 ans, etc., on va avoir là maintenant toute une série d'élections, y compris en France, qui sont de nature, et c'est dans un an et demi en gros, hein, qui sont de nature à perturber par leurs résultats très gravement tous les plans que peut dresser la Commission européenne sur le futur. Donc on n'est pas du tout politique comme on devrait l'être dans la situation actuelle en répondant à des attentes majeures chez les Européens.
Yves Antonini, ce qu'ont expliqué Hans Stark et Dominique Reynaud chacun à leur façon, c'est que finalement, tout le monde évidemment est conscient que le réchauffement climatique c'est important, qu'il faut faire quelque chose, mais en Allemagne comme en France, on préfère que les éoliennes soient plus loin et surtout pas dans notre propre jardin, en tout cas en dehors de notre vue. C'est évidemment un problème majeur, comme l'a rappelé Dominique Reynaud, qui effectivement peut susciter une montée du populisme.
Je suis assez d'accord avec ce que dit Dominique Reynier, si ce n'est que effectivement il ne faut pas garder une lecture purement institutionnelle des choses. C'est très très positif qu'il y ait eu davantage de participation aux élections européennes. Je crois que notamment du point de vue de la jeunesse, c'était sur ces thématiques environnementales et climatiques que ça s'est joué. Il peut y avoir aussi un surcroît de participation lié au sujet migratoire, identitaire, et puis aussi, je crois, sur les enjeux de sécurité collective, d'instabilité, Trump, Poutine, tout le reste. Donc, c'est là que ça se joue, c'est au niveau européen, avec des options différentes. Bon. Et donc, c'est vrai que la réponse sur le pacte vert européen, c'est une réponse pas seulement au rapport de force institutionnel, hein, ça a été dit, les Verts, c'est 9% du Parlement européen. Après le Brexit, ils vont même être doublés par l'extrême droite au Parlement européen, ils vont reculer à la 5e place. Ils sont même pas présents dans la moitié des pays de l'Union européenne, ils ne sont dans aucun gouvernement sauf en Autriche. Non, mais c'est une lecture pas institutionnelle, politique. Il y a quand même une poussée, une prise de conscience en Europe, il faut y répondre. Alors maintenant, Madame von der Leyen a pris un risque. Ça a d'ailleurs tangué même du côté de la CDU-CSU qui lui disait « Mais dans votre programme, vous écoutez plus les Verts allemands que nous, alors que vous êtes issus de notre parti. » Je dis ça sous le contrôle de Hans, évidemment. Et du coup, elle a pris ce risque, elle a pris l'énergie dans les 100 premiers jours de proposer un pacte vert européen. Moi, je crois nécessaire de le mettre en œuvre, mais en effet, de ne pas oublier les autres priorités et aussi de ne pas minimiser toutes les difficultés qui vont arriver du point de vue partisan, mais aussi du point de vue des États, parce qu'il y a quand même des sensibilités différentes. Et je dirais juste une chose à cet égard. Le Conseil européen a endossé le pacte vert globalement et notamment l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 en décembre dernier, sur la base d'un consensus, mais qui a été quand même un peu forcé par le nouveau président Charles Michel, parce que les autorités polonaises ont fait savoir que non, elle n'était pas tout à fait d'accord avec ce consensus. Et donc, il va falloir traiter cela, y compris en prévoyant, parce que ça a été publié cette semaine, des mécanismes d'accompagnement, de transition, parce qu'on l'a vu en France, notamment si on prend des mesures écologiques, y compris fiscales, sans prévoir un accompagnement pour ceux que la transformation du monde va mettre en difficulté, y compris financière. On échoue. Et donc, là, le fait que la Commission européenne ait commencé aussi par ça, l'aspect, le fonds de transition juste, ça, c'est aussi positif. Et ça montre qu'elle essaye d'avoir une approche globale pour réussir à relever ce grand défi qu'elle s'est elle-même fixé, je dirais.
Et pour reprendre un petit peu ce que disait Dominique Reynier, c'est pas un hasard si, effectivement, les Verts ne sont pas présents dans la moitié du continent, et notamment dans les pays d'Europe centrale, et si la Pologne est le seul pays qui n'a pas adhéré immédiatement à ce pacte vert, car évidemment, beaucoup de charbon en Pologne et beaucoup d'interrogations.
Mais il n'y a pas seulement, je dirais, la Pologne, parce que regardez, en Italie, il n'y a pas de parti vert. Les Verts n'ont pas de. Les Verts italiens, il n'y en a pas au Parlement européen, donc il y a pas mal de pays où, concrètement, il n'y a pas de Verts, même si au-delà de cette lecture institutionnelle, je crois qu'il faut avoir une lecture politique. Il y a un verdissement général des forces politiques et des discours. On verra pour ce qu'il en est des décisions. Je dirais que les Verts jouent d'ailleurs un rôle politique supérieur à leur point institutionnel et que sur un tout autre registre, c'est souvent la même chose pour l'extrême droite d'ailleurs. Parce que l'extrême droite, ils ne sont pas au pouvoir non plus, mais ils influent sur les partis mainstream, pardonnez-moi l'expression, c'est-à-dire les partis de gouvernement.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, juste le temps de prendre connaissance des toutes dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Cruzamento toute l'Europe.
Раскруча Европы.
Ставродромы της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel,
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. L'arrivée d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne et le renouvellement des postes clés des institutions de l'Union suffiront-ils pour donner un nouvel élan à l'Europe? Entre l'adoption d'un budget ambitieux pour financer entre autres la transition énergétique et le Green Deal, le fameux pacte vert, la définition d'une politique migratoire commune et la deuxième phase du Brexit sur la future relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, négociations qui vont démarrer dès le 1er février, eh bien le défi est immense pour la nouvelle présidente de la Commission. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints au studio 42 de RFI. Bertrand Tunis, il est président du mouvement européen France et consultant en affaires européennes. Dominique Régnier est le directeur de la fondation Fondapol. Et Hans Stark est secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes qui dépend de l'IFRI. Dominique Régnier, est-ce que selon vous ce projet, ce pacte vert, qui est la grande ambition d'Ursula von der Leyen, elle est susceptible d'entraîner les Européens, de contribuer à peut-être écrire un nouveau récit de l'Union européenne avec la paix que, évidemment, l'Union européenne a apporté, l'état de droit, la relative prospérité, mais qui maintenant ne satisfait pas. Est-ce que ça peut être un relais, un nouveau récit que les Européens peuvent peut-être écrire ensemble autour de ce pacte vert et de cette ambition écologique et climatique?
Il me semble que c'est une nécessité. Et que, par construction, ce qui est de l'ordre de la nécessité ne peut pas faire l'objet d'un récit. Alors, c'est très difficile de construire un récit sur quelque chose à quoi on ne peut pas échapper. Et donc, c'est l'autre aspect, pour moi, le défaut, je dirais, intrinsèque de ce thème, c'est que c'est une espèce de bataille qu'il faut mener avec de grandes chances de ne pas y arriver, parce que, de toute façon, c'est une bataille planétaire, et même si on la livre, nous, les Européens, intensément, on ne fera pas la bascule pour les autres, et sur quelque chose dont on nous dit d'ailleurs trop souvent, hein, sur un mode de rhétorique anxiogène, voire traumatisant, que c'est foutu et que de toute façon, il y a même d'anciens élus qui nous disent qu'on ne sera pas vivant dans 10 ou 20 ans. Donc c'est pas un univers facile. Mais la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, moi, c'est que, je ne sais pas, on devra se rendre compte, et assez vite, que nous sommes à nouveau dans un monde de politique de puissance. La globalisation nous a fait penser qu'au fond, il y avait une espèce de grande coopération plus ou moins cynique, plus ou moins matérialiste. Mais c'est pas ça qu'on voit maintenant. Hein. On voit très bien qu'il y a une politique de puissance, qu'elle est développée par la Russie, qu'elle est développée par la Chine, que sans doute, à leur manière, les États-Unis renouent avec cela d'une façon assez brutale, et que les Européens ne peuvent pas être cette seule part du monde et dans l'histoire présente qui ne se soucie pas de leur propre puissance. Nous ne pouvons pas être uniquement un soft power, un pouvoir doux, un pouvoir de normer. Nous ne pouvons pas être simplement bienveillants, nous ne pouvons pas être simplement sûrs de nos belles valeurs libérales, et elles sont réellement magnifiques. Nous devons aussi être une puissance, et ça, moi, je ne l'entends pas. Et le monde ne se souciera pas beaucoup de ce que nous sommes, nous les Européens, si nous ne sommes pas capables d'opposer une puissance. Dernière remarque, le comportement de la Chine, et moi je serai chinois, je ferai ce qu'ils font, hein, le comportement de la Chine, en particulier en Europe, ou vis-à-vis de l'Europe, est quand même très impressionnant, et nous devons y prendre garde, parce que, voilà, il y a une nouvelle redistribution du pouvoir. Les Européens ne sont pas, et de très loin, les mieux placés.
Mais il y a quand même une prise de conscience hein, sur ce...
Je trouve que c'est très lent.
L'idée que la commission de Ursula von der Leyen a dit que sa commission était géopolitique, c'est tout de même une prise de conscience.
Oui, mais il faut que très très vite, ça c'est très bien, mais je trouve qu'on est très très lent dans une histoire qui quand même là va à grands pas maintenant. Hein.
Alors, on se rien à mot, puis je voudrais quand même...
Sur ce point-là, on l'a pas entendu, von der Leyen, dans l'affaire irano-américaine de ces derniers jours. On a vu une présidente de la commission qui se veut donc une commission géopolitique, mais où était l'Union européenne lorsque, pendant quelques jours, on sentait quand même qu'un conflit pouvait éclater, un conflit sérieux dans le Golfe, directement entre Américains et Iraniens. Donc, sans maintenant déjà réfléchir à ce qu'il faut faire sur le plan d'un dispositif militaire, armée européenne, etc., ce sont tout ça de toute façon pour moi des chimères, n'aurait-il pas fallu que l'Union européenne fasse entendre sa voix aussi sur le cas concret de l'action américaine menée en Iran, par exemple, ou sur la politique iranienne proche du Moyen-Orient où elle soutient les milices chiites à tout va, ce qui a évidemment aussi provoqué le raidissement américain, etc. Le mot puissance, en soi, enfin, là nous avons un vrai, pas un désaccord, mais un malaise franco-allemand, si j'ose dire, puisque le mot puissance est quelque chose, d'un point de vue français, qui qui va de soi. Le mot Marthe en allemand, c'est, l'histoire joue encore un rôle important. Vraiment, pour eux, soft power, c'est vraiment le maximum de ce qu'ils veulent admettre, pour eux. Et nous sommes, de ce point de vue-là, très divisés. Mais ça n'empêche pas, même avec les moyens qu'on a actuellement, étant donné la force économique aussi de l'Union européenne, pour que l'UE, pour que Bruxelles soit présente diplomatiquement beaucoup plus sur les grands théâtres de conflits internationaux, même sans troupes, tout simplement, parce que là, il y a une puissance économique derrière, une puissance commerciale, un peu comme la Chine. La Chine n'est pas présente dans ces conflits avec des troupes. Elle est présente du simple fait qu'elle existe en tant que puissance économique.
Yves Santini, vous voulez rajouter un petit mot?
Non, mais c'est intéressant, y compris de mentionner nos alliés traditionnels américains, parce que ça montre quand même que le contexte est en train de changer assez fortement. La chancelière Merkel, quand elle était revenue d'un G7 à Taormine, après avoir rencontré Donald Trump, avait dit cette fameuse phrase, bon, bah, va falloir prendre notre destin stratégique en main. Donc, c'est un peu ça que dit Madame von der Leyen, peut-être, en disant commission géopolitique. Je crois que ça fait écho aussi à ce qu'avait dit Emmanuel Macron à la Sorbonne. Il y a une identité européenne. Et d'ailleurs, la protection de l'environnement en fait davantage partie qu'en Chine et aux États-Unis. Donc, il faut assumer ça. Et puis, il faut construire une souveraineté européenne. Et je suis d'accord, le récit peut-être davantage être élargi à cet horizon-là, hein, la sécurité collective, l'Europe dans le monde, les enjeux migratoires, l'instabilité. Le pacte vert européen ne peut pas faire office d'unique viatique. Mais peut-être que Mme von der Leyen, avec ce slogan de commission géopolitique, se déploiera sur d'autres registres dans les mois qui viennent. Josep Borrell s'est quand même exprimé pendant la crise irano-américaine. Et puis après, il faut bien noter que sur ces sujets-là, la voix de l'Europe, c'est aussi la voix de la France, la voix de l'Allemagne, la voix des Britanniques, hein, qui étaient vraiment actifs, hein, dans le deal nucléaire iranien. Et ça ne peut pas être de la Commission européenne, avec toutes les qualités que peut avoir sa présidente, qui porte cette voix-ci sur ces sujets diplomatico-militaires qui sont assez complexes.
Avant de poursuivre notre débat, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Courrier International a retenu cette semaine qu'Angela Merkel va accomplir cette année son dernier tour de piste européen, puisque l'Allemagne va présider aux destinées de l'Europe au deuxième semestre de cette année 2020. Mais pour l'instant, c'est la Croatie qui prend la tête de l'Union pour la première fois de son existence et pour 6 mois.
Et oui, avant de quitter le pouvoir l'année prochaine, la chancelière allemande doit encore relever un défi sur la scène européenne. À partir du 1er juillet, c'est l'Allemagne qui prendra la présidence tournante du Conseil de l'UE. Alors oui, Daniel, vous le rappeliez, actuellement, et pour les 6 premiers mois de l'année, c'est la Croatie qui occupe ce rôle. Une fierté pour ce pays, dernier État à avoir rejoint le bloc en 2013. D'ailleurs, les Croates font face à un défi de taille, relancer l'élargissement de l'UE aux Balkans occidentaux, un élargissement freiné il y a quelques semaines par le président français Emmanuel Macron. Mais si on se concentre beaucoup sur l'Allemagne, c'est parce que selon le mensuel Cicero, tous les autres thèmes importants, du plan vert ou Green Deal comme on l'appelle, au budget pour les années 2021 à 2027, eh bien ces sujets ne devraient faire l'objet d'une décision qu'au cours du deuxième semestre, c'est-à-dire sous la présidence allemande. C'est également lorsque l'UE sera sous l'égide d'Angela Merkel que tombera la deuxième phase décisive du Brexit. Alors à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Premier constat, la chancelière ne peut pas tout faire toute seule. Elle n'est pas le Messie, souligne la publication allemande. Pour boucler le Green Deal, le Brexit et donner un nouvel élan à l'Europe, tout le monde va devoir aller dans la même direction. Et par tout le monde, le mensuel entend la présidence du Conseil donc, mais aussi la Commission et tous les États membres. Bon courage. Ensuite, il va falloir contourner plusieurs écueils. Merkel doit par exemple éviter de s'allier trop étroitement à Ursula von der Leyen, son ancienne ministre de la Défense devenue présidente de la Commission. Pourquoi? Eh bien, sous peine de faire ressurgir la peur d'une domination allemande sur l'UE. Autre prérequis pour réussir la présidence tournante, faire des compromis. Et pour l'Allemagne, les compromis, ça veut dire payer plus. Merkel va en somme devoir mettre la main à la poche. C'est particulièrement vrai pour le futur budget, afin de compenser le départ des Britanniques avec le Brexit, mais aussi pour acheter un soutien à des projets onéreux comme le Green Deal et briser l'opposition de l'Est de l'Europe. En conclusion, pour le mensuel, ce baroud d'honneur sera tout sauf une promenade de santé au cours d'une année où l'Allemagne se retrouvera exposée comme jamais sur la scène européenne.
Merci Sacha Mitchell, Courrier International, Hebdo, courrierinternational.com, le site Handstark. On attend beaucoup d'Angela Merkel. Quand on attend beaucoup, on risque souvent d'être déçu. Alors notamment sur cette question du budget qui va être fondamentale, le budget de l'Union européenne pluriannuel 2021-2027. Le Parlement réclame un budget plus important. Et c'est vrai que l'Allemagne, à un moment, elle a plutôt tendance à freiner les ambitions du Parlement.
Il y a plusieurs choses. Si Mme Merkel est encore là aujourd'hui en tant que chancelière, c'est aussi parce que l'Allemagne a cette présidence de l'Union européenne. Autrement, on aurait pu très bien se dire, vu le processus politique intérieur, la succession vers Mme Kramp-Karrenbauer, les prochaines élections législatives, c'est en 2021, n'aurait-il pas fallu finalement démissionner plus tôt, après 2 années de son dernier mandat, pour laisser la place à Mme Kramp-Karrenbauer pour montrer ce qu'elle peut faire avant les élections de 2021 en tant que chancelière. Donc Mme Merkel a pris la décision de rester jusqu'au bout. Et si elle a pris cette décision, c'est aussi parce qu'il y a cette présidence. Donc cette présidence va finalement se solder, non pas par un échec, mais sur un succès.
Alors est-ce que ça va être un feu d'artifice ou un pétard mouillé ?
On verra, ça c'est un peu trop tôt pour le savoir pour le moment. Ça c'est quand même le premier point. Le deuxième, c'est qu'une présidence, a priori, elle doit être malgré tout neutre. Donc l'Allemagne ne peut pas défendre ses propres positions et en même temps assumer une présidence. Une présidence de l'Union européenne nécessite un arbitrage, donc une certaine neutralité. Ce qui veut dire que finalement les mains seront liées, relativement en tout cas à l'Allemagne. Les difficultés que nous avons dans le contexte actuel, c'est d'abord, premièrement, c'est l'habitude allemande de ne pas vouloir ouvrir le portefeuille, on le sait. Mais deuxièmement, le Brexit. Donc au ministère allemand des Finances, ils ont déjà fait des calculs. La contribution nette allemande au budget européen va peut-être même tripler.
Elle est de combien aujourd'hui ?
Elle est dans les 30 milliards, donc c'est-à-dire la contribution nette, donc la différence, donc elle va tripler. Et donc Merkel a déjà fait savoir qu'elle voudrait une espèce de rabais un peu à la britannique pour diminuer tout ça. Emmanuel Macron, le jour même, je pense le jour après, quand il a entendu ça, a dit niet, donc il n'en est pas question. Donc il y a eu un veto de la part de la France contre toute idée de diminution, non pas d'augmentation, mais de diminution de la part allemande au budget européen. Donc il y aura une partie de poker qui va se jouer, mais il faut donc souligner que le succès de la présidence allemande est lié à cela, à cette capacité finalement de synthèse, d'ouvrir à la fois suffisamment les vannes pour réaliser les politiques européennes qu'on veut mener, y compris sur le plan climatique, et en même temps, donc, régler cette question d'augmentation automatique de la contribution nette allemande au budget européen.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, l'Europe en 2020, nous sommes avec Dominique Régnier, directeur de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique, avec Hans Stark, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes, et avec Yves Bertoncini, président du mouvement européen France et consultant en affaires européennes. Yves Bertoncini, on attend évidemment beaucoup d'Ursula von der Leyen et peut-être un peu plus de souplesse des Allemands sur le fameux pacte de stabilité. Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour faciliter le pacte vert, la transition climatique, l'économie durable, etc., aller un petit peu de là, de son dogme de 3% du PIB pour les déficits publics.
Non, mais là, je crois que notre pays est schizophrène. je ne sais pas de quel dogme vous parlez, cher Daniel, dans la mesure
c'est
où...
C'est un mot qu'on entend souvent dans la couche des Français.
Bien sûr, mais c'est en cela que je... Bien que non médecin, je parle de schizophrénie. Cette fameuse limite des 3%, d'ailleurs c'est un engagement politique à la base, un contrat de mariage, on crée l'euro. Quand la France l'a-t-elle respecté ces 10 dernières années? Combien de fois? On vient de savoir hier que la France, à elle toute seule, va avoir un déficit public équivalent à l'ensemble des déficits publics des 18 autres pays de la zone euro. Alors arrêtons de parler de dogme, parce que si c'était un dogme, on aurait été excommunié depuis extrêmement longtemps. Je crois que nos amis allemands, mais pas seulement allemands, néerlandais, finlandais et autres, sont extraordinairement flexibles, un petit peu aussi agacés, parce qu'en fait, ils se disent, les Français empilent les déficits, et ça règle quoi de leur situation, qui n'est malheureusement pas très bonne. Bien sûr que les Allemands peuvent être... je vais dire rigide sous les yeux de Hans, mais peut-être un peu plus méthodique, je dirais plutôt, que d'abord il y a un système allemand de coalition, il faut faire des compromis, il y a des Länder, ça prend plus de temps, l'évolution, les Français sont un peu plus vibrionnants et c'est positif et le couple fonctionne comme ça. Mais il faudrait à un moment qu'on considère que les Allemands ont quand même déjà été très flexibles dans la crise de la zone euro. Ils ne voulaient pas, globalement je dis les Allemands, en tout cas beaucoup de forces politiques allemandes ne voulaient pas que Mario Draghi à la BCE soit hyperactif comme il l'a été. Et pourtant ça s'est fait. Il n'y avait pas de volonté populaire d'aider la Grèce ou l'Irlande. Et pourtant ça s'est fait. Le pacte de stabilité appliqué de manière ultra flexible, ben pourtant ça s'est fait. Le plan Juncker, l'union bancaire, tout ça, c'était pas du tout plébiscité. Ça a d'ailleurs coûté électoralement à Angela Merkel, puisque Alternative für Deutschland, ce parti, a émergé à la droite de la CDU sur le sujet zone euro avant de prendre davantage son essor sur les sujets migratoires. Donc je crois qu'il faudrait un peu réévaluer cette fable selon laquelle les Allemands, même s'il est vrai qu'ils décident souvent un peu trop tard et de manière plus difficile que nous les Français, ne sont pas flexibles. Ils l'ont été, et c'est d'ailleurs bien pour ça, et je termine sur la zone euro, que parce qu'ils l'ont été, qu'ils n'ont pas encore encaissé financièrement et politiquement toutes les concessions qu'il a fallu faire, qu'ils ne sont pas très chauds pour qu'on aille de l'avant. Je le regrette parce que je pense qu'il faudrait approfondir encore la réforme de la zone euro. Voilà, et on pourrait dire la même chose sur le budget. Peut-être que les Allemands n'ont pas envie de payer, mais enfin, ça fait quand même 50 ans qu'ils payent sur le budget de l'Union européenne. Donc après, ils ont quand même bien le droit de dire qu'au-delà d'une certaine limite, le ticket n'est plus valable. Voilà, c'est tout.
Alors, on sent bien que la question du budget sera difficile et que les négociations seront longues. De cette idée qui ressurgit régulièrement, une taxe européenne de façon à ce que l'Union européenne ait sa propre ressource budgétaire et qu'elle ne dépend pas uniquement du bon vouloir des États membres. Ça aussi, Dominique Reynier, ça revient souvent dans la bouche des Français.
Moi, je ne trouve pas une mauvaise idée. Enfin, je ne suis pas juge de cela, mais intellectuellement, je veux dire, intellectuellement, on peut admettre l'idée d'une taxe qui permettrait de financer le budget européen. Ça a une valeur politique, symbolique, une forme de fédéralisation. Enfin, il y a plein d'avantages. En tout cas, je trouverais ça cohérent, notamment avec le récit sur l'évolution de l'Europe. Mais simplement, il faut que cette idée soit dégallicanisée, si je puis dire, européanisée, c'est-à-dire que ça se fasse pour les consommateurs, pour les entrepreneurs, que ça se fasse à niveau de prélèvement constant, pour ne pas ajouter un prélèvement qui accroîtrait, je crois, les difficultés de l'espace européen par rapport au monde. Donc, est-ce que les États membres sont capables de transférer une partie de leurs ressources, c'est ça que ça veut dire, au fond, de manière automatique à l'Union européenne, ce serait un très grand geste, mais ça suppose que chacun fasse des efforts au plan national, puisque les fiscalités nationales ne sont pas harmonisées, la discussion qu'on vient d'avoir entre Hans Stark et Yves Bertoncini sur la situation budgétaire franco-allemande montre bien que c'est pas du tout la même position. Les Français qui ont eu l'idée de prélèvements supplémentaires ont effectivement des déficits qui sont constants, très résistants et qui en effet ne résolvent rien. Les Allemands dégagent des excédents, encore aujourd'hui des excédents tout à fait spectaculaires. Et donc on va pas parler de la même chose. En tout cas, le point clé, c'est de faire cette idée de fiscalité non pas une sorte de énième solution pour un État membre en mal de prélèvement une fois qu'il les a tous utilisés, semble-t-il, mais plutôt un projet politique pour fédéraliser davantage l'Europe ou densifier la relation. Je dis fédéraliser, je sais que c'est un gros mot, mais enfin, c'est pour donner une idée du mouvement. Après tout, l'euro est bien une fédéralisation de la monnaie.
Alors, on a encore quelques minutes pour tracer les grands défis, les grands dossiers de l'Europe en 2020. Il y aura évidemment, le Brexit. On le sait maintenant, le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 31 janvier, et puis dès le 1er février, c'est un samedi, le 2 c'est un dimanche, disons le 3, dès le 3 février, les négociations vont reprendre pour essayer d'établir la relation future entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Alors Boris Johnson a déjà déclaré qu'il n'irait pas au-delà du 31 décembre pour cette période de transition. Or, personne ne pense que l'on peut conclure une négociation aussi complexe en aussi peu de temps, et ce sera justement pendant la présidence tournante de l'Allemagne de l'Union européenne. Encore un sujet difficile.
Et ce qui va peut-être aussi compliquer encore une fois la donne des négociations budgétaires, puisque ce sera parallèle avec cela. Mais le risque étant pour la Grande-Bretagne d'avoir finalement, ou peut-être que c'est ce qu'ils veulent, un no deal. C'est-à-dire si on n'aboutit pas jusqu'à la fin de l'année 2020 et que les Britanniques se disent finalement on s'en tient à cela, dans ce cas-là, ils n'auront rien. Je pense que la balle est plutôt dans leur camp que dans celui du camp des Européens. Nous, on souhaite continuer à avoir des relations constructives avec les Britanniques dont on a besoin, notamment sur les questions de défense. Plus que jamais, il faut rappeler quand même que c'est la principale puissance militaire avec la France du continent européen, mis à part la Russie qui est un cas à part. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes vraiment perdant sur toute la ligne, mais on ne peut pas forcer les Britanniques à accepter, en particulier avec la majorité qu'ils ont maintenant au Parlement britannique, accepter un accord dont ils ne veulent pas. Donc voilà, c'est-à-dire il faut, de ce point de vue-là, hélas, suivre les Britanniques et ils font avec. Pour nous autres Européens, et notamment pour la France et l'Allemagne, ça va compliquer la donne. Il faut rappeler aussi, lorsque finalement on a fait rentrer les Britanniques, donc en 73, française. C'est aussi peut-être pour avoir un petit contrepoint par rapport à la France et à l'Allemagne. Et, finalement, les Français ont construit avec la Grande-Bretagne une relation, notamment sur les questions de défense, très intense. Et les Allemands se sont appuyés sur les Britanniques sur les questions justement de discipline budgétaire, de politique économique. Donc, les Allemands avaient avec les Britanniques un allié de ce point de vue-là. C'est d'ailleurs sous Cameron que la politique d'austérité a été la plus sévère parmi les Européens, mis à part évidemment les Grecs. Ça va manquer. Et donc finalement, en franco-allemand, on va se trouver presque, je pense, dans un face-à-face, sans les Britanniques, sans ce correctif qu'on avait, sans cette relation qui était finalement une relation trilatérale. Et cela, à la fois, mettra le franco-allemand plus face à ses responsabilités, et ça mettra à nu, justement, notre insuffisance de réaliser, justement, ce binôme franco-allemand dans un contexte de leadership européen. Et de ce point de vue-là, ça va être très, très compliqué.
Hubert Antuny.
Oui, le romantisme français nous pousse à parler de couple franco-allemand, et il serait plus juste de dire que c'était un ménage à trois avec les Britanniques et puis avec d'autres. Alors, c'est un ménage à trois qui va continuer, hein, d'ailleurs, mais simplement les Britanniques vont nous quitter, vont quitter l'Union européenne. Je précise juste que le Brexit n'aura pas lieu hein, le 31 janvier, parce que ce qui aura lieu, c'est seulement le Brexit institutionnel. Ils sortent des institutions, donc ils n'ont plus voix au chapitre, mais ils continuent à appliquer toutes nos normes jusqu'au 31 décembre. Donc là, il se norvégianise pendant quelques temps. Et puis effectivement, si Boris Johnson ne demande pas un délai supplémentaire, il faudra aboutir à un accord d'ici la fin de l'année. Comme c'est impossible, ça sera certainement un accord séquencé, saucissonné, avec l'essentiel d'abord et puis peut-être la suite les années suivantes. Mais c'est vrai que ça ne va pas être facile pour les Allemands de négocier cela. Et au-delà, puisque le divorce sera prononcé, il faudra construire cette relation future, ou plus exactement la maintenir. C'est d'autant plus important sur les sujets de sécurité collective, hein, défense, mais aussi coopération policière, judiciaire, renseignement, parce que face au terrorisme, il n'y a pas besoin d'armes nucléaires, il faut l'échange de renseignements notamment, et il faut que les Britanniques restent actifs sur ce registre-là. Je voudrais quand même dire une dernière chose sur le Brexit. On nous avait parlé à l'époque d'effets dominos. Vous savez, The Economist s'était fourvoyé en faisant croire que les Britanniques sortiraient et après tous les autres. Ben non, c'est même l'inverse, c'est l'effet casino. C'est-à-dire qu'on a fait croire qu'ils y gagneraient quelque chose. Bon, ce n'est pas flagrant à court terme. C'est une décision qui est plus une décision politique, identitaire, peut-être même émotionnelle. Les Britanniques sont d'ailleurs prêts, dans leur majorité, à assumer les coûts. Simplement, c'est un divorce qui, comme tout divorce, aura des coûts. Alors maintenant, l'enjeu pour nous, c'est Européens qui n'avons pas demandé ce divorce, c'est de minimiser les coûts, parce qu'il y en aura même pour nous qui n'avons pas demandé cette séparation, et puis de maintenir ou de définir une relation future qui soit la plus étroite possible, mais ça dépend aussi de Boris Johnson, parce que pour l'instant, bon, peut-être c'est une tactique de négociation, il est particulièrement offensif, sabre au clair, donc on verra bien si, y compris guidé par la sagesse et la méthode allemande, il arrive à récipiscence et on arrive à un compromis dans l'intérêt des deux parties.
Dominique Rény, on arrive au thème de cette émission, c'est vous qui allez la conclure. Une des objectifs peut-être d'Ursula von der Leyen, ce sera peut-être de renforcer la cohésion de l'Europe et des Européens entre le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest, peut-être autour des questions migratoires, de la réforme de la zone Schengen, du règlement de Dublin, de la répartition des migrants, du renforcement des frontières. Voilà, c'est on a un peu le temps d'en parler beaucoup, ce sera évidemment aussi un axe important de la petite Ursula von der Leyen pour les 6 ans à venir.
Absolument, ça doit être important, sinon ce sera terrible dans les conséquences. Il y a aussi l'intégration des migrants, des personnes que nous accueillons, c'est un grand sujet, la défense de nos valeurs. C'est devenu un sujet structurant dans l'espace européen. Ça peut ne pas plaire à l'oreille quand on l'entend, mais c'est une réalité qu'il faut observer, dont il faut voir les effets, sinon on fait faire des bêtises. Peut-être, et ça fait un lien avec la question du Brexit et ce qu'ont dit Hans Stark et Yves Bertoncini, peut-être qu'il y a un lien parce que les pays scandinaves et les pays anciennement communistes doivent trouver une place plus importante. Et on doit leur parler autrement, en particulier pour les pays de l'Europe centrale-orientale. Et au fond, c'est pas trois personnes qui faisaient ce ménage à trois, c'est trois mentalités. Et cette mentalité, la troisième mentalité, celle que nous n'aurons plus avec les Britanniques, on l'a avec les pays scandinaves et les pays de l'Est. Et il faut quand même faire en sorte qu'elle soit présente, parce que c'est vraiment trois façons de voir l'Europe. C'est l'occasion, je pense, au-delà de ces questions migratoires qui sont très importantes, et de sécurité collective, je pense qu'il faut apprendre à avoir des relations beaucoup plus importantes et en les considérant réellement beaucoup plus avec non seulement les pays scandinaves, qu'ils soient membres ou pas de la zone euro, mais aussi avec des pays d'Europe centrale et orientale. La Pologne peut jouer un rôle très important. On doit trouver le chemin pour avoir avec la Pologne une meilleure relation et essayer de rentrer dans cette espèce de complexité. Il faut avoir un rapport compréhensif avec des pays qui se donnent, je dirais, la politique qu'ils veulent se donner.
C'est vrai que la Pologne, elle a plutôt tendance en ce moment à se recroqueviller, quoi.
Une partie de la Pologne, oui. La Pologne est très divisée hein, sur ce chemin d'ouverture ou de fermeture culturelle, politique, etc. Mais c'est la Pologne qui vit sa vie politique. Et nous devons, nous, être comme les membres d'une famille, plutôt bienveillants, en essayant de les comprendre et en faisant attention de ne pas précipiter ce que nous voudrions empêcher en étant maladroitement partie prenante.
Voilà, on a fait un petit tour des défis d'Ursula von der Leyen et des nouvelles têtes de l'Europe en 2020. Les défis sont importants, les espoirs aussi. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier, avec Marie Afonso et Sacha Mitchell du Courrier International et la complicité de Nadia Ben Mahfoud. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Vous réécoutez cette émission en podcast ou en balado-diffusion. Je préfère, comme on dit au Québec, le site RFI.fr ou l'appli RFI Pure Radio. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, où que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde, et oui, ça existe. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Et tout de suite, un nouveau journal sur RFI. Au revoir.
Le débat africain.